Bonjour et bienvenue, c'est le mercredi 13 décembre 2017 et Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour. Lendemain de bonne bordée de neige. Mm-hmm. Vous allez bien?
Oui.
Oui, c'est calme, hein? C'est agréable.
Oui, le pelletage s'en vient.
Oui, j'ai pelleté hier soir.
Non, pas encore. Moi, j'attendais que ça soit fini.
Non, mais c'est parce qu'avec le froid qu'on annonce, là, ça se pellete tellement bien, cette neige poudreuse. Mais
oui, mais avec le froid, on se réchauffe en pelletant.
Oui, je sais, mais on peut faire une crise cardiaque quand on force trop fort.
Ah non.
Soyez prudent.
Oui.
OK, alors on vous écoute.
Donc, en ce 13 décembre... En 2006, c'est l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par l'ONU, Convention internationale pour promouvoir, protéger et assurer la dignité, l'égalité devant la loi, les droits humains et les libertés fondamentales des personnes avec des handicaps en tout genre. L'objectif est la pleine jouissance des droits humains, oui, fondamentaux, par les personnes handicapées et leur participation active à la vie politique, économique, sociale et culturelle. On note que le Canada a ratifié cette convention assez récemment, en 2010. Eux aussi, en ce 13 décembre, c'est un jour de souvenir triste pour les Acadiens qui commémore un événement tragique lors de la déportation des Acadiens. Les bateaux Duke, Williams, Ruby et Violet qui coulent en 1758. Là, j'ai plusieurs dates aujourd'hui, on en dit quelques-unes. En 1665, l'intendant Jean Talon fonde un chantier naval sur la rivière Saint-Charles. C'est peut-être l'ancêtre de la Davie. En 1883, l'adoption de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba. En 1903, c'était fait l'hiver, mais en tout cas, il prévoyait son coup, le mec. Le New Yorkais d'origine italienne Italo Marcioni obtient un brevet pour le cornet à glace. Et voilà.
Le cornet de crème glacée?
Oui, c'est marqué cornet à glace. C'est quoi? Ça doit être cornet de crème glacée pour se rafraîchir l'été.
Un cornet à glace, c'est rare qu'on entend ça.
Ou peut-être une mauvaise traduction.
Peut-être.
Google sort de ce corps. Non, pas. Ouais, c'est ça. En tout cas, peu importe. Pardon. En 1928, c'est la première mondiale au Carnegie Hall d'un Américain à Paris de George Gershwin. En 1963, l'adoption d'une charte du droit de l'espace. En 1968, l'Assemblée législative prend le nom d'Assemblée nationale. En 1973, c'est la création du régime québécois des allocations familiales. Donc, pour les mères, c'est une bonne chose. En 1974, comme condition à la paix au Proche-Orient, l'Égypte demande un gel de la population israélienne pendant 50 ans. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait obtenu. En 1983, celle-là, je l'avais oublié. Lors d'un verglas, 500 000 abonnés d'Hydro-Québec de la région de Montréal sont privés d'électricité pendant 36 heures.
En quelle année?
En 1983.
Ah, on se souvient du verglas de 98, celui de 83, on était trop jeunes.
Ou peut-être, moi, je restais à Montréal, mais peut-être que je n'ai pas manqué de courant ce fois-là.
Aucun souvenir.
En 1990, la Cour suprême conclut que la loi interdisant la propagande haineuse est une limite raisonnable à la liberté d'expression au Canada. En 2001, le gouvernement américain diffuse une cassette d'Oussama Ben Laden prouvant son implication dans les attentats du 11 septembre de la même année. En 2003, Paul Martin abolit le programme qui, sous Jean Chrétien, devait mousser la visibilité fédérale au Québec, les fameuses commandites. En 2003, après 8 mois de traque, l'ancien président irakien Saddam Hussein est capturé par l'armée américaine dans son fief de Katrik. En 2006, Québec adopte la loi autorisant les épiceries à ouvrir avec plus de 4 employés jusqu'à 20 heures les samedis et dimanches. En 2008, plusieurs banques du monde admettent avoir confié indirectement des sommes souvent colossales au coursier new-yorkais Bernard Madoff, accusé d'une escroquerie pyramidale estimée à 50 milliards de dollars quand même. C'est horrible.
Attention à votre vocabulaire.
Oui, mais c'est un voleur, c'est un bandit, là, excusez-moi. Oui. Un bandit à cravate, comme on dit poliment.
C'est ça. Ouais. Votre colère vous a fait parler, mais je vous comprends.
En 1900, notre ministre, une ministre dont c'est la fête aujourd'hui, Hélène David, universitaire, fonctionnaire et femme politique québécoise, ministre de la condition féminine et aussi de...
Oui, elle a changé de ministère.
Et aussi de l'enseignement supérieur. Elle a les chapeaux de les deux ministères. Ouais. Bob Gainey, ancien joueur du Canadien de Montréal, entraîneur aussi, puis qui était directeur général, directeur gérant, un truc du genre.
Mm-hmm. Quel âge?
Bob Gainey est né en 53 aussi, comme Mme David. Donc, ça leur donne...
64 ans.
Ouais, c'est bon, bientôt la retraite. En 2007, c'est le chanteur et acteur français Philippe Clay nous quittait, tout simplement.
Philippe Clay?
Oui.
Qui est Philippe Clay?
Un chanteur et un acteur français.
Ah bon?
Chanteur populaire.
C'est drôle parce que je les connais pas mal, mais celui-là me dit absolument rien. Philippe Clay.
Oui, bon, on fera une petite recherche.
On va essayer de trouver la clé du mystère. Merci Maurice.
Un plaisir.
À la une de la presse, fraude, plagiat et mensonges chez les scientifiques, 15 professeurs congédiés, suspendus ou rétrogradés. Un tout nouveau document fédéral révèle des détails inédits sur les dérives survenues dans les universités canadiennes et sur les sanctions imposées aux chercheurs fautifs. Des centaines de mots pour dire la neige. Découvrez le riche lexique des Autochtones. Il y a mon collègue Daniel Lachance qui a lu ce texte dans l'émission Les Voix de service magazine de ce 13 décembre 2017. Aussi, réseau enneigé sous haute surveillance et art bye-bye, la zone de confort. Comment concocter une revue de fin d'année à l'ère du mot-clic « moi aussi » Nous avons posé la question au créateur. J'y reviendrai dans le segment Actualité culturelle. Un chercheur employé d'une université canadienne a illégalement conservé des agents pathogènes à haut risque dans son laboratoire qui n'était pas équipé en conséquence et a demandé à son assistant et à ses étudiants de mentir pour le protéger. C'est l'un des 63 exemples exposés dans un tout nouveau document fédéral recensant les cas de scientifiques ayant commis des actes malhonnêtes ou failli à leur devoir. La majorité des informations qui s'y trouvent n'avaient encore jamais été rendues publiques. La « synthèse des faits », entre guillemets, mise en ligne hier, révèle que la police a été alertée à 3 reprises entre la création du groupe pour la conduite responsable de la recherche en décembre 2011 et le 1er avril 2016. Durant cette période, 15 professeurs canadiens ont été congédiés, suspendus, rétrogradés ou ont démissionné après avoir été reconnus fautifs de détournement de fonds, de fausses déclarations, de fraude ou de plagiat. L'un d'entre eux a parallèlement été poursuivi au civil. Une demi-douzaine d'étudiants ont par ailleurs été expulsés ou ont vu leur doctorat révoqué. On ignorait jusqu'ici quelles étaient les sanctions imposées par les universités. Contrairement à l'Office for Research Integrity américain, le groupe pour la conduite responsable de la recherche ne nomme pas les chercheurs fautifs ni leur université et ne précise même pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme conformément aux lois provinciales et fédérales sur la protection des renseignements personnels, justifie-t-il sur son site Web. On découvre maintenant que la grande majorité des chercheurs fautifs faisaient partie du corps professoral. Plusieurs d'entre eux sont allés jusqu'à demander à leurs étudiants de mentir pour cacher une fraude et plusieurs ont tenté de blâmer leurs subalternes. La vie sauve grâce à un défibrillateur. Un père de famille de 37 ans a sauvé in extremis à l'aide d'un défibrillateur automatique après un arrêt cardiaque exhorte tous les lieux publics à se doter d'un tel appareil. Jean-Philippe Larose n'en revient pas d'avoir été aussi chanceux dans sa malchance. Sans la présence d'un défibrillateur automatique dans l'école où il jouait au hockey Cossum et l'intervention rapide d'un ami qui avait suivi une formation en réanimation cardio-respiratoire, RCR, ce père de famille de 37 ans ne serait fort probablement plus de ce monde. Dimanche soir, M. Larose s'est effondré, victime d'un arrêt cardiaque, 15 minutes avant la fin d'une partie entre amis dans le gymnase de l'école secondaire Gérard Filion à Longueuil. Ce père de 3 jeunes enfants est cardiaque de naissance, mais tout allait bien avant cet incident. Son plus récent bilan de santé réalisé par sa cardiologue plus tôt cet automne était normal. Un coéquipier et ami de longue date, Éric Berger, s'est empressé de lui faire un massage cardiaque. Il avait suivi une formation à l'hôpital Charlemagne où il travaille. Un autre coéquipier a eu la présence d'esprit de partir à la recherche d'un défibrillateur. Par chance, la commission scolaire Marie-Victorin, qui chapeaute l'école secondaire Gérard Filion, a doté tous ses établissements de défibrillateurs externes automatisés, DEA, pas plus tard que l'été dernier. « La décharge du défibrillateur m'a ramené à la vie », résume M. Larose, à qui la presse a parlé hier alors qu'il est toujours hospitalisé à l'Institut de cardiologie de Montréal. Dans la nuit de dimanche à lundi, M. Larose a même trouvé la force d'écrire un message sur Facebook devenu viral pour rappeler l'importance de suivre une formation en RCR. « Tous les lieux publics et toutes les entreprises devraient se doter d'un défibrillateur », a-t-il ajouté en entrevue à la presse. À l'heure actuelle, aucune loi au Québec n'oblige l'installation de DEA dans les lieux publics, déplore l'urgentologue montréalais François de Champlain, président fondateur de la Fondation Jacques de Champlain. Exclusif à la presse, mission de l'ONU en Haïti. Un autre policier québécois qui prenait part à une mission de l'Organisation des Nations Unies, ONU, en Haïti, fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle, une situation qui risque d'avoir un impact négatif sur la réputation internationale du Canada, révèle des notes du ministre de la Sécurité publique obtenues par la presse. Ces nouvelles allégations d'exploitation et d'abus sexuels remontent à mars 2017. Le policier, qui serait un employé de la Sécurité publique de Saguenay, a été rapatrié au pays peu après avoir été dénoncé par des agents d'une force policière partenaire. Il prenait part à la mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti. Il s'agit du cinquième cas d'inconduite sexuelle impliquant un policier canadien rapporté en Haïti depuis 2006, soulignent les documents destinés au ministre Ralph Goodale, obtenus en vertu de la loi sur l'accès à l'information. La Gendarmerie royale du Canada, GRC, responsable des policiers canadiens déployés à l'étranger, a refusé de confirmer l'identité de l'agent rapatrié, de même que les faits précis qui lui sont reprochés. Le cabinet du ministre Goodale s'est lui aussi montré avare de commentaires sur ce nouveau cas, indiquant que le gouvernement du Canada condamne sans équivoque toute forme d'exploitation et de violence sexuelle. L'ancien responsable des communications réintégré, le nouveau directeur Martin Prudhomme, ramène le porte-parole éjecté par Philippe Pichet. C'est un article de Vincent Larouche, on en parle dans tous les quotidiens d'aujourd'hui. Pardon, le changement ne s'est pas fait attendre au service de police de la ville de Montréal, SPVM. Le nouveau directeur Martin Prudhomme va annoncer aujourd'hui qu'il ramène Yann Lafrenais hier comme responsable des communications du corps de police. Une rupture très visible avec le règne du chef suspendu, Philippe Pichet, qui avait éjecté sans ménagement ce visage public de l'organisation. Selon ce qu'a appris la presse de plusieurs sources internes, Martin Prudhomme a rencontré les cadres du quartier général du SPVM hier et annoncé son intention de faire plusieurs changements rapides. Il dit être pressé par le temps. Son mandat n'est que d'un an et il affirme être dans l'obligation d'obtenir des résultats concrets. Yann Lafrenière avait été l'homme de confiance de plusieurs directeurs successifs, mais il n'était pas dans les bonnes grâces de Philippe Pichet, un chef qui favorisait une proximité plus grande avec l'hôtel de ville et le bureau du maire dans la gestion des communications de la police, comparativement à ses prédécesseurs. Et la Ville de Montréal décrète le début de l'opération de l'enlèvement de la neige pour ce soir, 19h. La métropole évalue qu'il lui faudra de 3 à 4 jours pour faire disparaître les 20 cm de neige tombés depuis hier. Le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau, en a fait l'annonce ce matin lors d'une réunion du comité exécutif. Cette opération de chargement sera la cinquième de l'année, en incluant les quatre survenus entre janvier et mars dernier. C'est dans la moyenne des dernières années, a précisé Guylaine Brisson, directrice de la concertation des arrondissements. Le balai des souffleuses et camions de chargement se mettra en branle à partir de 19h ce soir dans la majorité des arrondissements. Les pancartes d'interdiction de stationnement apparaîtront d'ici 15h dans les rues, où la neige sera enlevée en priorité. Certains attendront toutefois à demain matin. Montréal reçoit en moyenne 190 cm de neige par hiver. L'hiver 2016-2017 a été plus chargé, alors que 227 cm ont été reçus, selon les données météorologiques, à l'aéroport de Montréal, l'aéroport Montréal-Trudeau. La gestion du déneigement coûte en moyenne 158 millions par année. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling.
On vient d'entendre Sharon Jones and the Dap Kings qui nous chantait Silver Bell.
Première bordée de neige, magnifique photo de Jacques Nadeau à la une du Devoir. Un homme plutôt jeune qui marche de dos avec son pack-sac et qui a dans les mains un tout petit sapin de Noël. Il y a la neige qui tombe. Belle photo de Montréal sous la neige. Entrée remarquée de l'hiver à Montréal et sur une bonne partie de la province, il valait mieux se déplacer à pied, comme le jeune homme sur la photo, mardi, alors que plus de 20 cm de neige se sont accumulés. Jusqu'à jeudi, les précipitations pourraient varier entre 15 et 30, 50 cm, dis-je bien, selon les régions, prévient Environnement Canada. Flotte d'avions, Ottawa modifie les règles de l'appel d'offres. Un soumissionnaire qui nuit aux intérêts économiques du pays sera pénalisé. Jeunesse au soleil devra se chercher un nouveau toit. La CSDM, en manque d'école, va récupérer l'édifice qu'elle loue à l'organisme. Jeux vidéo des musulmans autrement que stéréotypés. L'industrie doit s'ouvrir à la diversité, dit le concepteur Osama Dorias. On voit une photo tirée du jeu Overwatch. Culture, Salmigondi Galactique Star Wars, épisode 8. Les derniers Jedi souffrent d'une construction épisodique dénuée d'un arc dramatique fort. La critique de François Lévesque. Cour suprême, Richard Wagner nommé juge en chef. Énergie fossile, la Banque mondiale ferme le robinet. Et crise humanitaire aggravée en République démocratique du Congo. Non seulement le gouvernement canadien boude-t-il Boeing pour l'achat de sa flotte intérimaire d'avions de chasse, mais Ottawa pourrait en outre exclure l'entreprise américaine du fructueux contrat qui livrera au Canada sa prochaine génération de chasseurs. Un tout nouveau critère s'est ajouté au processus d'appel d'offres lancé mardi par le gouvernement Trudeau. L'entreprise retenue ne devra pas nuire aux intérêts économiques du Canada, un avertissement à peine voilé au géant Boeing. Boeing, qui a déjà perdu la vente de 15 appareils, dit qu'elle réagira à la décision canadienne en temps et lieu. L'organisme Jeunesse au soleil, véritable institution pour les personnes démunies, est sur le point de perdre le bâtiment qu'il occupe depuis plus de 3 décennies sur le plateau Mont-Royal. La Commission scolaire de Montréal, CSDM, propriétaire de l'édifice, compte reprendre le bâtiment dans le but de reloger temporairement les élèves de l'école FACE, F-A-C-E, qui a besoin de rénovation de plus de 100 millions de dollars. Selon ce que Le Devoir a appris, les commissaires de la CSDM doivent entériner la semaine prochaine, le 20 décembre, la décision de mettre fin au bail de Jeunesse au soleil. Il s'agit d'un coup dur pour cette organisation ayant pignon sur rue depuis 1954 et depuis 1981 à l'adresse actuelle, qui offre une multitude de services à des milliers de familles. Paniers de nourriture, fournitures scolaires, équipes sportives, camps de jour, aide au logement, distribution de vêtements d'hiver. Le bâtiment situé à l'angle des rues Rachel et Saint-Urbain est un véritable havre pour les familles démunies, souvent immigrantes, de l'île de Montréal. L'organisme cherche une nouvelle adresse dans le même secteur du plateau Mont-Royal, confirme Ernie Rosa, directeur de la gestion immobilière chez Jeunesse au soleil. La présidente de la CSDM, Catherine Harel-Bourdon, confirme que la commission scolaire a besoin de reprendre le bâtiment pour y aménager des classes. Jeunesse au soleil compte proposer à la CSDM de partager ses locaux actuels avec les élèves. Catherine Harel-Bourdon exclut cette possibilité parce que la CSDM a besoin d'occuper tout le bâtiment. Jeunesse au soleil leur aussi l'Hôtel Dieu, situé à 2 pas du bâtiment actuel qui vient de fermer ses portes, pour déménager dans le nouveau CHUM. Le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, dit être en réflexion au sujet du déménagement à l'Hôtel Dieu souhaité par Jeunesse au soleil et d'autres groupes communautaires. Le projet de loi C-49 qui jette les bases pour l'élaboration d'une charte des voyageurs ne sera pas adopté avant Noël, a fait savoir mardi le sénateur Dennis Dawson au ministre des Transports Marc Garneau. Ce dernier avait invité les sénateurs à procéder à l'étude du projet de loi le plus rapidement possible, dans l'espoir de pouvoir présenter en 2018 les règlements qui définiront cette déclaration pour les droits des passagers. Cette charte doit clarifier les responsabilités des transporteurs aériens envers leurs passagers. Après son adoption, la charte devra être rédigée par l'Office des transports du Canada, qui lancera ensuite des consultations. Les voyageurs devront donc patienter encore des mois avant d'être adéquatement protégés. Richard Wagner a été confirmé mardi dans le poste de juge en chef de la Cour suprême du Canada, soulageant du coup bien des Québécois qui demandaient que le principe d'alternance entre des juges de tradition civiliste et de « common law » soit respecté. La Cour hérite d'un leader qui n'a pas peur de la dissidence et dont les prises de position variées le rendent difficile à cataloguer. Il a l'intégrité, la sagesse et la capacité de travailler en collégialité qui sont nécessaires pour le juge en chef de la Cour suprême du Canada, a expliqué la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. Son bilinguisme permettra aux gens d'être entendus dans les deux langues officielles, a-t-elle aussi ajouté. La ministre a cependant refusé de dire que le principe d'alternance avait pesé dans la balance. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les juges en chef de la Cour suprême proviennent tour à tour du Québec, puis du reste du Canada. Il n'y a eu qu'une seule exception à cette alternance entre deux traditions juridiques. ExxonMobil cède à la pression. La compagnie pétrolière s'engage à plus de transparence sur l'impact de la lutte contre les changements climatiques sur ses activités. Cinq mois après avoir renouvelé sa résistance aux actionnaires, l'incitant à plus de transparence sur les changements climatiques, ExxonMobil change d'avis. La super pétrolière évaluera publiquement l'impact que les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient avoir sur elle. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est mercredi. Nous sommes le 13 décembre 2012. Hélène Denis qui vous accompagne. À venir, la revue de presse du Journal de Montréal. Restez avec nous.
C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël et pour fête et saint. Il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents. À pied il longe la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant. À pied le long de la Seine, marchant d'un pas lent, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Charmant Noël. Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi, bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là, eux qui avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien tout quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël.
Barbara qui nous chantait Joyeux Noël.
Et oui, paraît-il que j'ai dit qu'on était en 2012. Non, on est le mois, c'est le 12e mois, mais on est bien en 2017. Alors, c'est la une du Journal de Montréal du 13 du 12 2017. Maurice a eu peur encore une fois. Alors, à la une donc du journal, sitôt arrivé, sitôt arnaqué, les demandeurs d'asile ciblés par des fraudeurs. Cour suprême, un juge en chef du Québec. Mafia, le futur parrain est libre. Et opinion, sondage, sexe drôle, drôle, plutôt drogue et milléniaux. Des fraudeurs sans pitié visent les demandeurs d'asile. Des fraudeurs visent des demandeurs d'asile dans une nouvelle arnaque d'une ampleur rarement vue. Ils leur extorquent de l'argent en prétendant représenter un tribunal de l'immigration allant jusqu'à les menacer d'expulsion. Depuis le 7 décembre, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, CISR, a reçu pas moins de 140 plaintes de personnes disant avoir été la cible d'une tentative d'extorsion visant particulièrement les demandeurs d'asile. Plusieurs proviennent du Québec. Des demandeurs d'asile reçoivent des appels de fraudeurs disant qu'ils sont des représentants de la CISR, qu'ils sont présentement sous enquête et qu'ils nous doivent de l'argent dans le cadre de leur dossier. Depuis le début de décembre, on reçoit une quantité sans précédent de plaintes, détaille la porte-parole de l'organisme Lynn Guibert-Wolf. Si des fraudes concernant les immigrants ne datent pas d'hier, c'est la première fois que les arnaqueurs prétendent être issus de la CISR afin d'extorquer les personnes ayant des audiences devant la commission, souligne Mme Guibert-Wolf. Dans la majorité des cas, les arnaqueurs exigent au moins 1 000 à la victime en prétextant que si elle ne paye pas, son dossier sera refusé et elle sera soit emprisonnée, soit carrément expulsée du pays, explique Alain Boomhauer du CAFC, qui est le Centre antifraude du Canada. Certaines victimes y auraient laissé jusqu'à 10 000 $. Les trois ex-employés de la Montréal, Maine et Atlantique accusés relativement à l'explosion d'un train à Lac-Mégantic qui a fait 47 morts ne présenteront aucune défense lors de leur procès. le conducteur du train, Tom Harding, le contrôleur ferroviaire, Richard Labrie, et le directeur du bureau de Farnham, Jean Demaître, font tous face à 47 chefs d'accusation de négligence criminelle causant la mort. Ils ne témoigneront pas comme c'est leur droit. Les trois accusés travaillaient à la Montréal Main and Atlantic MMA lorsque leur train transportant du pétrole a explosé à Lac Mégantic le 6 juillet 2013. La décision de ne pas présenter de défense a été prise après que les quatre procureurs de la Couronne eurent terminé la divulgation de leurs preuves, présentées au Palais de justice de Sherbrooke depuis le 2 octobre dernier. Le procès des ex-employés de la MMA fera relâche durant la période des fêtes pour éviter que les membres du jury soient séquestrés à quelques jours de Noël. Les membres du jury sont donc convoqués le 3 janvier pour entendre les plaidoiries des parties. Ils recevront ensuite les directives du juge Gaétan Dumas avant d'être séquestrés pour rendre leur verdict. Le futur parrain libéré de prison. Les policiers croient que Vittorio Mirarchi pourrait diriger la mafia montréalaise. Pressenti comme le prochain parrain de la mafia montréalaise dans les milieux policiers, un protégé du cahier de Rénal Desjardins a repris sa liberté hier, après 6 ans à l'ombre. Le journal a appris que Vittorio Mirarchi a quitté la prison de Saint-Jérôme, où il était incarcéré pour avoir comploté le meurtre de l'aspirant parrain Salvatore Montagna, assassiné pour venger une tentative de meurtre sur Desjardins alors qu'il tentait de prendre le contrôle de la mafia. Mirarchi avait été appréhendé le 20 décembre 2011 par la SQ, en même temps que Desjardins, qu'il surnommait affectueusement « le vieux ». Leurs textos étaient espionnés par la police pendant qu'ils préparaient le crime. L'influent mafioso de 40 ans a écopé d'une peine de 9 ans, soit 5 de moins que son principal associé. « C'est le prochain parrain », nous ont avancé plusieurs sources policières au sujet de ce Québécois aux origines calabraises. Encore le chaos à Montréal. Voitures incapables d'avancer, mises en portefeuille d'autobus, circulation au ralenti, les côtes de Montréal en pleine tempête de neige représentent une entrave pour laquelle l'administration Plante cherche encore une solution. Ce n'est pas normal, on ne voudrait pas que ce soit ainsi. Peu importe où on est à Montréal, les côtes restent un problème, reconnaît le responsable du déneigement au comité exécutif Jean-François Parenteau, qui a lui-même observé les voitures glisser sur la pente de la rue Gosford. Sur l'heure du midi hier, la côte du boulevard Robert-Bourassa au coin de la Gauchetière était devenue une patinoire pour les automobilistes. Malgré les deux passages des déneigeuses en avant-midi, plusieurs voitures faisaient du surplace dans la côte sur les feux de détresse ou zigzaguaient à travers la voie. On voudrait toujours que ce soit sec, c'est sûr, mais on reste un pays nordique. Je veux voir avec les équipes quel est le nombre de passages adéquats sur les grandes artères et s'il peut être possible d'augmenter ces passages. D'autres villes du Québec ont pourtant déjà appris de leurs erreurs et portent une attention particulière aux côtes pendant une chute de neige pour éviter ce genre de situation. Justement, à propos des passages, désormais, dès que des précipitations sont attendues, du côté de Québec, les entrepreneurs qui ont les contrats municipaux doivent prévoir de l'équipement et du personnel pour déblayer spécifiquement les côtes avant les heures de pointe. Par la suite, le déneigement des pentes se fait en continu par des équipes dédiées à cette tâche. We'll be right back. Le SPVM tente de retracer une dame de 68 ans qui aurait tenu les policiers et pompiers en haleine en fin de soirée lundi et en début de nuit hier en mettant le feu à plusieurs poubelles avant d'incendier son appartement de la rue Sicard dans Hochelaga-Maisonneuve. Ces incendies n'ont pas fait de blessés, mais ont temporairement chassé 5 ou 6 personnes de leur logis. Les Montréalais semblent prêts à se passer des boissons sucrées dans les bâtiments municipaux, dont les arénas. L'élimination graduelle de la vente de boissons sucrées dans les bâtiments municipaux de Montréal, comme les arénas, est bien accueillie par les joueurs de hockey, tout comme les organismes qui œuvrent en santé publique. Ce qu'on veut, c'est encourager l'exercice physique, que les gens soient en santé. Si ça contrevient à cela, tant mieux si c'est interdit. Les joueurs vont changer leurs habitudes, boire plus d'eau, a indiqué le président de la Ligue provinciale de garage du Québec, Jonathan Coulombe, qui joue au hockey une fois par semaine. Mylène Drouin, chef médical de la Direction de santé publique de Montréal, croit que la décision de bannir progressivement des breuvages comme les boissons gazeuses et énergisantes est très positive. C'est un mouvement qui risque de prendre de l'ampleur, qui risque de s'étendre dans nos milieux de travail et dans d'autres sphères, a-t-elle précisé. Et une vague de cas d'infection à la bactérie E. coli liée à la consommation de laitue romaine s'est propagée dans 3 provinces, incluant le Québec, a averti l'Agence de la santé publique du Canada. Dans un communiqué, l'agence a expliqué avoir recensé 21 cas d'infection au cours du mois de novembre, soit 3 au Québec, 5 au Nouveau-Brunswick et 13 à Terre-Neuve-et-Labrador. 10 personnes ont dû être hospitalisées, mais aucun décès n'est survenu. Plusieurs des personnes qui ont contracté la bactérie ont affirmé avoir mangé de la laitue romaine avant de tomber malade. La source de ces salades potentiellement contaminées n'a toutefois pas été identifiée. Aucun rappel de produit n'a donc pu être déclenché. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling,
Elvis Presley et Blue Christmas.
« Les journaux régionaux dans le droit sous la plume de Daniel Leblanc exitent la fumée près des hôpitaux d'Ottawa. Dans moins de 3 semaines, finit les ondes fumeurs aux abords de tous les hôpitaux d'Ottawa alors qu'entrera en vigueur la loi favorisant un Ontario sans fumée. Alors, je poursuis si ma tablette peut dégeler. Dès le 1er janvier, donc, il sera désormais interdit de fumer sur l'ensemble des terrains des établissements pour griller une cigarette ou encore vapoter. Autant les patients, les employés que les visiteurs des hôpitaux seront donc contraints de se rendre à l'extérieur de la délimitation de la propriété des hôpitaux, par exemple, sur les trottoirs. Mais encore là, le trottoir en question devra se trouver à plus de 9 mètres de l'établissement, comme le stipule la réglementation actuelle. Les contrevenants s'exposeront à des amendes surpassant 300 $. Le réseau d'Ottawa pour des hôpitaux sans fumée travaille depuis plus d'un an à informer les gens au sujet de cette loi qui s'appliquera aux 10 campus hospitaliers de la ville. On a travaillé très fort à informer les principaux acteurs du milieu et les patients, entre autres avec des campagnes de sensibilisation. L'année 2017 en était une de transition. Je crois que la majorité des gens sont à l'affût de ce qui va se passer dès janvier. Ce ne sera pas une grande surprise. La loi sera claire, il sera interdit de fumer qu'à l'intérieur des lignes des propriétés. Ce sera bien affiché de dire la directrice du service environnemental et des mesures d'urgence à soins continus Bruyères, Christine Carrière. Elle affirme d'ailleurs d'ores et déjà sentir un vent de changement. Bon nombre de gens semblant respecter la loi qui n'est toujours pas en vigueur. À son avis, une telle législation allait en quelque sorte de soi. Nous sommes des milieux de santé. On a un rôle à jouer dans la société, dont celui évidemment de s'engager à promouvoir la santé. On sait que le tabac est l'une des causes majeures de maladies et de décès, affirme Mme Carrière. Elle souligne que pour ceux qui le désiraient, des thérapies de remplacement de la nicotine ou des services de conseil pour l'abandon du tabac étaient offerts. Une telle loi est en vigueur dans d'autres provinces, dont la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick. En 2016, selon Statistique Canada, le taux de tabagisme s'élevait à 17 %. Le groupe d'âge comptant la plus forte proportion de fumeurs est celui des 20 à 34 ans. Fait divers, D-I-V-E-R-S et fait divers, D-H-I-V-E-R, c'est dans le soleil d'aujourd'hui. Marc Allard et Yann Bussière, l'hiver frappe fort sur l'autoroute 20. La tempête qui a frappé les régions de Québec et Chaudière-Appalaches mardi a entraîné 2 carambolages en après-midi sur l'autoroute 20 dans l'Aude-Binière. Le premier carambolage, survenu vers 13h30 à Saint-Apollinaire, impliquait au moins 5 camions lourds et une dizaine de véhicules. Il a fait au moins 4 blessés mineurs et l'autoroute 20 est demeurée complètement fermée pendant quelques heures dans le secteur, forçant les automobilistes à emprunter des détours et perturbant l'heure de pointe. Vers 14h toujours sur l'autoroute 20, mais dans la ville voisine d'Issoudun, un second carambolage survenait impliquant 7 véhicules et faisant au moins 4 blessés mineurs. Les policiers de Québec, Lévis et de la Sûreté du Québec ont été très occupés toute la journée en raison des conditions météo difficiles. Au total, 28 accidents matériels et 3 accidents avec blessés ont été notés de 8h à 18h sur le territoire de la ville de Québec, alors que la SQ et la police de Lévis ont aussi dû composer avec plusieurs sorties de route. Par ailleurs, dans le comté de Lillet, la route 204 a été fermée à la circulation lourde durant une partie de la journée, après que plusieurs camions y soient demeurés coincés, ayant été incapables de gravir la pente. Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs de Bellechasse, Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, Lévis, Lotbinière, Portneuf, Québec, Saint-Lambert et Valcartier, Stoneham. Entre 20 et 50 cm de neige sont attendus d'ici jeudi. trip à Sherbrooke malgré la neige, Steve Bergeron dans la tribune. L'équipe du film Trip à Trois a bravé la tempête de mardi pour venir parler de cette comédie du temps des fêtes qui prendra l'affiche le 20 décembre prochain. Le film qui raconte l'histoire d'une trentenaire, Mélissa Desormeaux-Poulain, qui est sur la photo, soucieuse de relancer sa vie de couple et songeant pour y arriver à réaliser un plan à trois avec son mari, incarné par Martin Matt, mais aussi en vedette les comédiennes Geneviève Schmitt et Bénédicte Descaries. Suivent le scénariste Benoît Pelletier, le producteur André Dupuis et le réalisateur Nicolas Monette. Rendez-vous sur notre application, alors c'est une invitation de la tribune, ou sur notre site Internet pour visionner l'entrevue de Mélissa et de Nicolas sur la genèse de ce long-métrage et ne ratez pas votre tribune du 16 décembre pour une entrevue avec Martin Matt dans le cahier Art Magazine. Dans le quotidien, Pascal Girard, son mariage avec un Congolais annulé. Une Almatoise a réussi à faire annuler un mariage avec un Congolais survenu en mars 2011, soit quelques mois seulement avant que ce dernier n'obtienne le statut de résident permanent au Canada. Le mariage a été annulé par la juge de la Cour supérieure Sandra Bouchard le 9 novembre dernier au palais de justice d'Alma. Selon le jugement, la dame, dont le nom n'est pas public, a demandé la nullité de son mariage célébré à Alma le 30 mars 2011. L'homme, originaire de la République démocratique du Congo, a obtenu ensuite le statut de résident canadien à la fin de l'année 2011, souligne le document rendu public vendredi dernier. En cours, l'Almatoise a raconté son histoire avec documents à l'appui. Il a proposé à la demanderesse de se marier en lui mentionnant qu'il l'aimait, ce que cette dernière a accepté sous la foi de son amour. Or, après la cérémonie du mariage, le défendeur a avisé la demanderesse qu'il ne l'aimait pas vraiment, mais qu'il la considérait comme une bonne amie. Les parties n'ont jamais eu de relations sexuelles, n'ont jamais fait vie commune et n'ont accumulé aucun bien ensemble, peut-on lire dans le jugement. Le jugement ne mentionne cependant pas si le mariage avait pour but de permettre à la dame de parrainer l'homme dans sa demande d'obtenir le statut de résident. Il n'est pas dit non plus s'il y a bel et bien eu parrainage. Selon le site Web du gouvernement du Canada dans la section Immigration et citoyenneté, il est écrit qu'il est possible pour une personne de parrainer un époux, un conjoint de fait, un partenaire conjugal ou un enfant à charge. Vous pouvez parrainer votre époux, votre conjoint de fait ou votre partenaire conjugal si votre relation est authentique et ne vise pas principalement à aider la personne parrainée à obtenir la résidence permanente au Canada. Est-il mentionné sur le même site Internet? En cour, l'homme ne s'est pas présenté pour se défendre. La juge Bouchard a été sévère envers ce dernier dans son jugement. La demanderesse demande l'annulation du mariage puisque son consentement a été vicié. C'est ce que la preuve démontre. Le défendeur était manifestement de mauvaise foi et la demanderesse n'a pas offert un consentement libre et éclairé, a-t-elle statué. La juge Bouchard a aussi déclaré qu'il n'y a pas eu de constitution d'un patrimoine familial, de sorte que chaque partie demeure propriétaire des biens lui appartenant et qu'il n'y a pas lieu de partager les gains inscrits au nom de chacune des parties au registre de retraite Québec durant leur mariage. Et dans le Nouvelliste, sous la plume de Brigitte Trahan, les Farfadets ne sont pas une légende. Vous ne croyez pas au Père Noël? L'atelier des Farfadets est une légende pour enfants? Une fausse nouvelle? Une théorie de la conspiration? Détrompez-vous! Le Nouvelliste est allé aux sources et il appère que non seulement l'atelier des Farfadets existe bel et bien, mais en plus, il est situé en Mauricie. Mardi, d'ailleurs, des témoins crédibles ont vu les Farfadets et le Père Noël en train de distribuer des jouets et des vêtements à 90 enfants dans 52 familles des secteurs Lac à la Tortue, Saint-Georges-de-Champlain, Saint-Jean-des-Piles et Grand-Mère. C'est beaucoup de travail, c'est pourquoi les pompiers de la ville de Shawinigan ont amorcé cette distribution lundi et se sont rendus au domicile de 45 enfants. Selon un sondage scientifique obtenu en exclusivité par le Nouvelliste, environ la moitié des enfants qui sont sous l'aile protectrice de l'atelier des Farfadets préfèrent en effet recevoir leur cadeau de la main des pompiers. Toujours selon ce sondage, l'autre moitié des enfants préfèrent recevoir les Farfadets à la maison. Et certains affirment que le Père Noël en personne se serait aussi présenté chez eux. La Mère Noël en charge de cette initiative, c'est Sylvie Gervais, qui est aussi la directrice générale du Centre d'action bénévole de Grand-Mère. Madame Gervais, qui a lancé ce projet en 1995 avec sa mère, s'assure en effet que la magie de Noël fasse pleinement partie de l'expérience pour chaque enfant de 0 à 12 ans qui bénéficie de cette initiative annuelle. Pour les bénévoles, cela implique de porter les vêtements magiques correspondant à leur rôle bien spécial. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens à Canal M. Hélène Denis qui vous accompagne encore une bonne demi-heure à venir les actualités culturelles et les sujets libres.
Duo français Brigitte qui nous revisitait une pièce d'Alain Souchon, Allô maman Bobo.
Allons-y avec la portion culturelle, chose promise, chose due. Je vous disais que j'allais revenir sur ce texte qui concerne le bye-bye. Bye-bye, la zone de confort, le traditionnel bye-bye piloté par Simon-Olivier Fecteau, le Tourlou 2017 des appendices et la revue annuelle d'Infoman de Jean-René Dufort n'échappent pas au sujet sensible. Pour le meilleur, malgré le pire, espère-t-il? Alors, c'est dans la presse d'aujourd'hui et c'est un texte de Chantal Guy. On s'en souvient, le bye-bye de 2009 avait choqué plus que d'habitude le public qui avait très mal reçu les blagues sur Nathalie Simard, alors qu'elle avait courageusement dénoncé son agresseur. À l'ère du mot « clic, moi aussi », et quand on voit la polémique qui a entouré le spectacle de Guy Nantel, comment aborde-t-on dans une revue humoristique les incontournables scandales d'inconduite sexuelle, par exemple? La difficulté, c'est d'en parler, de ne pas en parler et d'en parler, résume Jean-René Dufort qui, lors de notre entrevue, commençait à peine son bilan de 2017 à Infoman avec son équipe. On cherche une manière de couvrir ce qui est difficile. Le danger, c'est toujours de faire des amalgames, de mettre tout le monde dans le même panier. Nous allons devoir réfléchir à ça. Notre job, c'est de parler de ce qui est arrivé, note Simon-Olivier Fecteau, qui travaille d'arrache-pied à son bye-bye. Et si on veut en parler, il faut nommer, traiter ces situations et assumer ce qui vient avec. À mon avis, c'est un bon bye-bye qui s'en vient. Nous avons très hâte de le présenter, mais il est moins délicat que l'an dernier, dit Simon-Olivier Fecteau. Les Appendices présenteront dans leur émission spéciale de fin d'année, Tourlou 2017, un sketch sur le consentement. Mais l'humour absurde qui caractérise le groupe les protège un peu contre les mauvaises interprétations, selon Julien Corriveau. On aborde le sujet par la dérision et l'exagération, dit-il. On a mis en scène des personnages stupides qui ont une vision tellement exagérée que ça en devient drôle. Ils pensent que « non » veut dire « oui » dans toutes les situations de la vie. On pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde. Ça nous permet d'aborder l'enjeu sans parodier des personnes en particulier. Ce qui a le plus changé depuis les premiers Bye Bye Infoman, ce sont bien sûr les réseaux sociaux. La réaction est immédiate et l'emballement devient collectif. Il n'y a pas que ça. Avec tout ce monde qui veut prouver son sens de l'humour, il arrive bien souvent que d'excellentes blagues aient été faites avant même que les scripteurs aient commencé à écrire les leurs. Je reste loin de ça, sinon tu vires fou, avoue Jean-René Dufort, qui souligne que cette pression ne se vit pas seulement à la fin de l'année pour lui, mais chaque semaine. Le paysage a complètement changé, les jokes sont instantanés, tout le monde a trouvé des idées avant toi. Avant, un scoop durait plus de 5 minutes et maintenant, tout le monde a les clés pour cogner à ta porte et venir te dire ses réactions. Avant, tu avais plus le temps de penser que celui qui a bu un verre de vin le soir et qui écrit fâché directement à l'animateur, dit Jean-René Dufort. Étonnamment, Simon-Olivier Fecteau est moins stressé que l'an dernier, malgré des sujets beaucoup plus glissants en 2017. L'an passé, je me demandais tout court si on était capable de faire ça, un bye-bye, sans se faire démolir. Ça a été somme toute bien reçu, une belle expérience en bout de ligne. On sait que c'est possible, on sait qu'on n'en mourra pas. Entre mourir et ne pas mourir, il y a un gros stress de moins. Rire, entre parenthèses, l'an passé, notre bye-bye a été assez gentil. Cette année, on est un peu plus sur la ligne, on ne peut pas faire autrement avec l'actualité des derniers mois. Quels sont les sujets les plus risqués, selon eux? Ce n'est jamais ce qu'on avait prévu, notre Jean-René Dufort. On est toujours surpris de ce qui passe et de ce qui ne passe pas. Mais nous avons un public fidèle depuis des années. C'est très rare que nous ayons un tsunami de gens qui n'ont pas aimé ça. Par contre, je dirais que le sujet de la religion, c'est toujours quelque chose avec un petit bonus. Julien Corriveau note lui aussi que la religion est toujours un sujet délicat. Il y a beaucoup de sensibilité à ça, je dirais. Il y a aussi qu'à notre heure de diffusion, beaucoup d'enfants sont à l'écoute et on s'est fait critiquer parfois parce qu'on sacrait. Il faut faire attention, l'absurde ne permet pas tout non plus. Mais, règle générale, on a été assez chanceux, on n'a pas eu beaucoup de plaintes. Dans sa revue de l'année, Jean-René Dufort prend soin de ne pas prendre position en laissant les commentaires éditoriaux à ses invités. « Je tiens toujours pour acquis que personne ne va croire ce que je dis. Personne ne veut entendre un éditorial de moi. Je fais toujours dire les choses par mes invités. Il faut avoir une certaine neutralité et c'est important que chaque personne ait sa shot au micro. Un péquiste, un fédéraliste, une féministe, un gars de la meute, une personne de gauche, un conservateur, un barbu, un non-genré, je les laisse parler. Le cas du bye-bye est assez particulier au Québec et suscite de vives discussions. Bon an, mal an. Mais je pense que les gens sont capables d'en prendre, croit Simon-Olivier Fecteau. Nous avons une permission que d'autres n'ont pas forcément. Notre rôle a toujours été d'être les fous du roi, dit Simon-Olivier. Il remarque cependant des fractures plus profondes dans la société. Il y a deux mouvements, et ils sont clairs. D'un côté, la droite, qui a continué de pousser avec Trump, qui estime que s'exprimer, c'est dire tout ce qu'on veut et envoyer chier n'importe quelle catégorie de gens. Et à l'opposé, ceux pour qui, peu importe ce que tu dis, c'est offensant. Nous avons deux pôles très opposés. Tous les deux sont très vocaux. Les gens disent haut et fort leur position. Tout le monde a accès à tout le monde et ça brasse. Même son de cloche chez Jean-René Dufort. Avec les réseaux sociaux, les positions sont confinées à des groupes d'intérêt. Les personnes de gauche discutent avec la gauche, ceux de la droite avec la droite. Tout devient une fake news quand ça ne milite pas en ta faveur. À Infoman, des groupes d'intérêt nous appellent non pas parce que ce que l'on montre est faux, mais parce que ce n'est pas de leur avis. Comment en résumer 2017? Parce qu'ils ont à se pencher sur les grandes lignes de l'année, ils ont forcément une vision très personnelle sur les 12 derniers mois. C'est une année qui a commencé avec la marche des femmes jusqu'à l'élection de Valérie Plante, observe Dufort. D'ailleurs, beaucoup de villes ont élu une femme à la mairie. C'est une année où les femmes se sont levées de belles façons. Et une année de catastrophe naturelle. J'inclus Trump là-dedans. On peut planter les mononcles et saluer les femmes. Julien Corriveau qualifie 2017 d'année stupide, autant par les décisions de Donald Trump que par les gens qui ont commis des gestes dont ils pensaient qu'ils n'auraient pas d'impact sur leur carrière, précise-t-il. Beaucoup de fake news aussi, de gens qui croient n'importe quoi. Bref, beaucoup de stupidité, ce qui est évidemment très bon pour nous. 2017, pour moi, c'est un chaos nécessaire, estime Simon-Olivier Fecteau. Nous sommes dans une grosse période où tout brasse et j'espère que c'est pour être meilleur après. Soit nous deviendrons de meilleurs humains, soit il n'y aura plus d'humains. Tourloup 2017 des appendices, le samedi 30 décembre à 20h à Télé-Québec. Infoman 2017 le dimanche 31 décembre à 22h à ICI Radio-Canada Télé. Et Bye Bye 2017 le dimanche 31 décembre à 23h à ICI Radio-Canada Télé. À l'approche du temps des fêtes, nombreuses sont les propositions musicales qui sentent bon le sapin et le lait de poule. Parmi elles, les actrices chanteuses Raphaël Lalande et Sonia Cordeau et leurs invités présenteront du 14 au 22 décembre au Théâtre La Licorne le Joli Noël de Jolibois, un spectacle intime où se côtoieront des reprises des classiques de Noël et des compositions originales. Le 16 décembre, ce sera au tour d'Andy Kim de réunir ses amis pour un quatrième concert de Noël au profit de la Fondation pour l'enfance Starlight. Sam Roberts Band, Ron Sexsmith, Platinum Blonde et Michel Pagliaro, entre autres, fouleront les planches du théâtre Corona pour la cause. Enfin, direction Vert-Bouteille, alors que Morand et Thomas Carbou poursuivent le 17 décembre leur série de prestations acoustiques gratuites. Les contributions volontaires seront versées à l'accueil Bonneau pour cette dernière performance de l'année. Les tabourets des invités seront occupés par Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière. Si Noël vous chante. Et pour terminer cette portion culturelle, c'est demain et vendredi que Pierre Lapointe transporte à Montréal sa tournée québécoise et européenne « La science du cœur », construite autour de son plus récent disque. Après le fastueux spectacle « Amour » d'Hélice et Orgue, le dandy de la pop québécoise risque de miser sur une mise en scène plus modeste. Et comme à Québec la semaine dernière, il devrait être accompagné par Philippe Chiu au piano et Jean Catalao au marimba. On nous promet une prestation imprégnée d'humanité, de tendresse, de sourire et de rire. Comment s'incarnera la facture classique des nouvelles pièces, notamment habillées par des cordes solennelles sur scène? À suivre en concert à guichet fermé les 14 et 15 décembre au Théâtre Corona.
Les galas n'aiment pas les nuits où ils se réveillent seuls dans nos lits. Les galas n'aiment pas l'ennui qui s'installe quelquefois dans nos vies.
Les galas préfèrent les lits carrés. Les lits où les amoureux crient comme des damnés. Les galas préfèrent les lits carrés, surtout les lits où les amoureux peuvent s'aimer.
Les galas n'aime pas la vie. Quand des navets le rose et le jaune ont pâli, les calas de loin préfèrent le bruit des amoureux qui les réveillent la nuit. Les calas veilleront sur toi et moi, qu'on soit séparés ou qu'on dorme sous le même toit. Les calas n'auront jamais froid, tant et aussi longtemps que tu n'aimeras que moi. Les calas n'aiment pas les nuits où ils se réveillent seuls dans nos lits. Les calas n'aiment pas l'ennui, l'ennui qui s'installe quelquefois dans nos vies. Les calas préfèrent les lits carrés, les lits où les amoureux crient comme des damnés. Les calas préfèrent les lits carrés, surtout les lits où les amoureux peuvent s'aimer. Les calas n'aiment pas la vie, quand des pavés le rose et le jaune ont pâli. Les calas de loin préfèrent le bruit des amoureux qui les réveillent la nuit. Les calas veilleront sur toi et moi, qu'on soit séparés ou qu'on dorme sous le même toit. Les calas n'auront jamais froid, tant et aussi longtemps que tu n'aimeras que moi. Tant et aussi longtemps que tu n'aimeras que moi. Tant et aussi longtemps que tu n'aimeras que moi.
Pierre Lapointe, accompagné de Ariane Moffat, nous chantait Les Calas.
Sujet libre, j'ai pris ça dans le 24 heures, j'ai lu ça dans le métro. Service gratuit pour les fêtes, le réseau de transport métropolitain RTM a annoncé hier qu'il offrirait gratuitement l'accès à l'ensemble de ses services pour les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier. Cette offre inclut les services de train, de banlieue, d'autobus et de transport adapté pour l'ensemble du réseau. Nous offrons aux résidents de la grande région métropolitaine d'utiliser des moyens de transport collectifs et sécuritaires lorsqu'ils planifieront leur déplacement pour se rendre à des festivités ou au travail, a indiqué Raymond Bachand, directeur général du RTM. Les usagers sont invités à prendre connaissance des horaires spéciaux pour les différents services du RTM qui seront en vigueur les 24, 25, 26, 30 et 31 décembre 2017, ainsi que les 1er et 2 janvier 2018. L'horaire et les modalités spécifiques pour chacun de ces réseaux sont accessibles au rtm.québec, /horaire au pluriel, trait d'union, jour au pluriel, trait d'union, férié sans accent. C'est dans le soleil, Mylène Moisan, les amitiés véritables de tous vos amis Facebook. Combien pouvez-vous en appeler en pleine nuit si vous avez besoin de parler à quelqu'un? Un ou deux? Voyez, c'est mon baromètre de l'amitié. Pouvoir tirer une personne de son sommeil en sachant qu'elle va nous écouter. En sachant que ça va dans les deux sens, que l'autre aussi peut appeler n'importe quand. Ça et pouvoir pleurer. Je vous racontais dimanche l'histoire de Pierre et d'Hérol qui se sont connus dans un quartier ouvrier de Port-Alfred à 5 ans, qui ne se sont jamais perdus de vue. Ils ont fêté en août 60 ans d'amitié. Ils ne sont pas seuls. J'ai reçu des dizaines de courriels de vieilles amitiés qui résistent aux années et aux intempéries. Chantal m'a écrit, elle avait à peine 10 mois quand Linda est née. Lorsque j'ai commencé à parler et marcher, je disais à ma mère que je voulais aller voir le bébé. Le bébé, c'est ma grande amie. On était des voisines. Le bébé l'a aidée à passer au travers de moments difficiles. Elles se parlent souvent, traversent le parc quand elles ont le goût de se voir. Louis, lui, en est à un demi-siècle d'amitié. En 1965, quand j'étudiais au collège classique Saint-Marie, sur la rue Bleury, je travaillais comme placier à la Place des Arts, toute nouvelle à l'époque. Au temps de l'Expo 67, nous étions plus de 150 étudiants à y travailler. Mardi prochain, je retrouve mes amis de l'époque pour le dîner. On se retrouve presque chaque mois et ça fait plus de 50 ans que ça dure. C'est le nœud le plus solide de mon câblage vital. Et pourtant, on parle peu d'amitié, de la vraie affaire. Dans un rapport publié en février 2016 par l'Institut de la statistique du Canada, ISQ, à partir de données de Statistique Canada, on apprend, on s'en doutait un peu, que plus on a d'amis proches, plus on aime la vie. On parle ici du distillat des amis Facebook, quand s'évaporent les simples connaissances, de vrais amis. Voici la définition de l'ISQ. Les amis proches sont des individus avec qui nous ne sommes pas apparentés, mais avec qui nous sommes à l'aise, à qui nous pouvons dire ce que nous pensons et à qui nous pouvons demander de l'aide. Ces relations sont envisagées comme des liens forts permettant du soutien émotif, de la compagnie, de l'aide financière d'urgence et de la réciprocité. Ado, je transcrivais sur des feuilles que j'affichais dans ma chambre des phrases que je glanais ici et là. Il y avait celle-ci. « Les amis, c'est comme les taxis, on n'en trouve plus quand le temps est à l'orage. » Et celle-là qui n'a rien à voir avec l'amitié. Combien de gens qui rêvent d'éternité ne savent pas quoi faire un dimanche quand il pleut? Je l'aime bien. Remarquez, un dimanche pluvieux passe plus vite avec un ami. Et ce que nous apprenait aussi l'Institut de la statistique du Québec, c'est que 9 % des hommes disent n'avoir aucun ami contre 7 % pour les femmes. Et le nombre d'amis décroît avec l'âge, plus rapidement chez les messieurs. Après 65 ans, une personne sur 5 n'a pas d'amis. Comme cet homme qui m'a raconté dimanche qu'il aimerait tellement en avoir un. La soixantaine avancée, il se retrouve seul aujourd'hui, avec aucun ami proche à qui se confier, avec qui se rappeler des souvenirs, avec qui rire non plus. Sans surprise, on constate que 3 amitiés sur 4 sont entretenues sur les réseaux sociaux, mais quand même, autour du tiers sont faites de contacts en chair et en os. Chez les jeunes, l'école est un incubateur important de l'amitié, qui trouve son prolongement dans le virtuel. Ou en vrai, comme Hérole et Pierre qui ont fait leur primaire et leur secondaire ensemble et qui ont entretenu leur amitié après. Parce que l'amitié, ça s'entretient. C'est aussi l'histoire de Marcel qui a connu Jean et Roger quand ils étaient des ticus de Rosemont à Montréal. Marcel m'a écrit quelques mots dimanche. Il m'a envoyé un égo-portrait de lui avec ses deux amis pour me dire qu'ils en sont à 75 ans d'amitié, des vieux chums au propre et au figuré. On pourrait dire qu'ils fêtent leur amitié d'albâtre, comme si c'était des noces. Pas juste pour la blancheur de leurs cheveux, mais pour la longévité de cette pierre dont on a retrouvé des sculptures datant de 4000 ans avant notre ère. Une pierre qui se façonne bien, qui résiste au temps. Et qui, quand on prend le temps qu'il faut pour la polir, brille comme le marbre. Alors, la chronique est accompagnée, bien sûr, de la photo des 3 amis qui se sont connus il y a 75 ans. Ils se retrouvent d'ailleurs mercredi soir pour souper. Dans la presse, voyage, aubaine de la semaine, Evelyne Audette, vol, forfait, tout inclus, escapade. Chaque semaine, notre journaliste repère pour vous les meilleures aubaines de la semaine, pris en vigueur hier, peuvent changer sans préavis. Alors, vol Guatemala, vol aller-retour Montréal-Guatemala, escale à Tucumán, au Panama, 383 $ par personne, taxes et frais inclus avec Copa Airlines entre le 24 avril et le 8 juin. Vol Kaohsiung à Taïwan, vol aller-retour Montréal-Kaohsiung, escale à Toronto et Séoul à l'aller et Hong Kong et Vancouver au retour, 897 $ par personne, taxes et frais inclus, avec Air Canada entre le 25 février et le 14 mars. Vol Vancouver-Canada, vol aller-retour Montréal-Vancouver sans escale, 246 $ par personne, taxes incluses, frais de bagages en sus, avec Air Transat, entre le 11 janvier et le 7 juin, départ les jeudis, retour les dimanches. Vol Paris-France, vol aller-retour Montréal, escale à Reykjavik, en Islande, 420 $ par personne, taxes incluses, frais de bagages en sus, avec Wow Air, entre le 22 janvier et le 23 février. tout inclus, Varadero Cuba, Rock Barlovento, 3 étoiles et demi, 765 $ par adulte, en occupation double, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Hôtel réservé aux adultes avec service attentionné, chambre rénovée, au décor de style espagnol sur le bord de la plage et à 1 km du centre de Varadero, avec Sunwing du 17 au 24 décembre. Croisière Caraïbes de l'Est, départ de Miami, à bord du Carnival Glory, un navire de 2 980 passagers. 612 $ par adulte, en occupation double, chambre intérieure, taxes et frais inclus, billets d'avion en su. 2 jours en mer, 4 jours de visite, Bahamas, Saint-Thomas, Porto Rico, îles Turques et Caïcos, avec Carnival, du 6 au 13 janvier. Escapade locale, le Viking Resort et Marina, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Laurentides, forfait motoneige demi-journée. À partir de 242 $ par personne, en fonction du jour de la semaine choisie, taxes pour boire et frais de ménage en su. Une nuitée en condo studio, 4 heures de motoneige, sans guide. Alors voilà les aubaines de la semaine annoncées par Evelyne Audet. C'est dans la presse, section voyage, plus particulièrement pause oxygène, avec donc ces voyages qui nous font rêver en cette journée de neige, plus ou moins. Voilà, ça complète l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 13 décembre 2017. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au chant de Noël et aux autres musiques également. Et puis, je vous retrouve à un moment donné, hein, Maurice?
Possiblement lundi prochain.
Parfait. Alors, possiblement lundi. Et puis, moi, je vous retrouve dans quelques secondes, si vous nous écoutez en direct, dans quelques minutes, devrais-je dire, à l'émission Les Paractualités. Bonne journée, merci d'être là.